Bonjour à tous, il est midi sur Radio Bulle, c'est votre quotidienne. Vous êtes avec Julien Duroux sur le 93.6, la radio de la Genêt. Un thème, un invité. Et aujourd'hui, je suis avec Florian Pitens de la société Bunkerity. Bonjour Florian.
Bonjour Julien.
Alors, on vous connaît pas encore. C'est vous êtes nouveau sur le secteur de la cybersécurité. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de qu'est-ce que la cybersécurité ?
Oui, évidemment. Alors, on me connaît pas encore, mais c'est peut-être aussi en lien avec le domaine. On est plutôt discret quand on est dans ce domaine-là. La cybersécurité, c'est très simple. Hein, c'est comme on aurait de la sécurité physique pour sécuriser une salle, sécuriser une salle des coffres. Ben, on a de la cybersécurité, et on va mettre des mesures pour sécuriser ces actifs numériques. Ainsi que ces données.
Ok, donc c'est uniquement les données actives numériques, c'est pas l'accès à des réseaux par exemple ou à des,
Alors si, effectivement, vu que maintenant l'aspect physique rejoint énormément l'aspect informatique, il y a aussi les accès au réseau, on pourrait même englober tout ce qui est surveillance, caméra, etc. C'est vrai que maintenant, de nos jours, la cybersécurité est même encore plus large que ça.
Alors la cybersécurité, c'est quelque chose qui touche quasiment tous les secteurs, toutes les entreprises, tous les types de structures.
À partir du moment qu'on a de l'informatique, on peut être touché, effectivement. D'autant plus avec les interconnexions qui sont généralisées de nos jours. Effectivement, n'importe qui peut être touché, malheureusement.
Alors quels sont les risques pour une entreprise ? Quels sont les risques pour une entreprise en termes de cybersécurité ?
Le premier des risques est peut-être au niveau légal, parce qu'il y a quand même une loi européenne qui s'appelle le RGPD, qui nous oblige déjà à mettre un minimum de cybersécurité.
Alors pour nos auditeurs, hein, c'est quelque chose qui date de l'année dernière, un peu pendant le Covid, pendant la crise sanitaire.
Alors même,
ça a été mis en place
alors
de
même,
manière effective.
Alors même un petit peu avant. Alors oui, il me semble que de manière effective, ça a été mis en place il y a peu de temps.
Et donc l'objectif, hein, c'est de protéger les données des utilisateurs. Quand vous envoyez des données dans une entreprise, données personnelles,
c'est
l'entreprise garantit la sécurité de ces données et garantit qu'elles ne vont pas être piratées par une autre entreprise, elles ne pourront pas être récupérées par un autre tiers que celui à qui vous les avez confiées.
Exactement, c'est exactement ça, et c'est plus une assurance pour l'utilisateur, comme quoi ces données personnelles, parce qu'on parle de données personnelles, qui permettraient de l'identifier directement ou indirectement, soit sécurisées. Parce qu'à chaque fois qu'on va sur un service sur Internet ou même un simple échange de mail, il peut être rempli de données personnelles. Et donc cette loi européenne, le règlement général pour la protection des données,
donc RGPD,
permet justement de poser un cadre un petit peu juridique et oblige les entreprises européennes ou extra-européennes, mais qui traitent avec des clients européens, à poser des mesures de sécurité.
D'accord, donc pour protéger les données contenues dans, par exemple, un échange de mail, ou des données comme, par exemple, une adresse, un numéro de téléphone qu'on va pouvoir confier à un site de vente en ligne, par exemple, quand on passe une commande, ils nous garantissent que cette adresse et ce numéro de téléphone, on ne va pas les retrouver sur un serveur russe.
Exactement, par exemple,
pour rester en actualité. Ça, donc, ça concerne les entreprises, hein, le système RGPD. D'autres risques pour les entreprises en termes de cybersécurité ?
Alors, il y a un gros risque qui serait celui de tout perdre, de perdre toutes ces données. Donc, on se réveille un matin, tout est paralysé et on nous demande une rançon pour pouvoir récupérer nos données. Pour rester aussi dans l'actualité, c'est arrivé à des hôpitaux. Par exemple, où les données sont prises en rançon, comme si c'était un malfaiteur qui viendrait nous prendre nos biens physiques, hein, et nous dire que si tu veux les retrouver, il va falloir payer tant d'euros. Sauf que là, les rançons sont à plusieurs millions d'euros. Donc ça peut paralyser, voire même faire couler une entreprise.
Donc là, pour expliquer aux auditeurs, le principe, c'est qu'ils prennent les données, c'est un codage qu'ils mettent sur les données. Il faut connaître une clé en fait, pour déverrouiller ce codage et récupérer les données.
Exactement, c'est ça. Et sans cette fameuse clé, et qui est très très dure à trouver si on ne la connaît pas, il est mathématiquement même impossible,
quasiment impossible de découvrir.
Voilà, de retrouver la donnée initiale.
Et donc dans la majorité des cas, de manière pour prendre l'exemple, par exemple, des hôpitaux que vous citiez il y a quelques minutes, ces données, ils arrivent à les récupérer généralement sans payer, ou ils en viennent toujours à payer la rançon si... Quand c'est le cas, une fois que c'est fait, que c'est trop tard, qu'il y a eu une cyberattaque sur les données, puisque vous arrivez en amont, hein, c'est pour éviter ce genre de problème, mais si c'est fait, une fois que c'est fait, on est dans le fait accompli, les données ont été codées, dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui se termine comment? Ils finissent par payer?
Alors c'est très complexe, parce que d'un côté, nous avons l'État qui officiellement ne peut pas dire qu'il faut payer la rançon. De l'autre côté, on a la réalité, si j'ose dire. Et il est vrai que certains groupes d'attaquants, quand on les paye, rendent les données. Il est vrai aussi que certains groupes d'attaquants, si on les paye, ne vont pas nous rendre les données. En général, le mieux à faire, c'est de ne pas payer, mais d'avoir prévu ça en amont. Et en fait de se préparer au pire, donc on appelle ça des plans de reprise sur activité ou des plans de continuité sur activité, PRA, PCA, qui nous permettent de mettre en place des procédures, justement en se disant ben, le pire est arrivé, comment je peux faire en sorte de tout remonter mon système d'information, de récupérer mes données, à la condition de faire des sauvegardes de manière régulière, etc., etc. Donc ce serait le meilleur conseil que je pourrais donner si on souhaite continuer, même quand ça nous
arrive. Se prévenir en amont.
Exactement.
Alors, du coup, est-ce qu'il existe encore donc, d'autres risques pour les entreprises? Donc là, on a parlé du risque pour leurs données personnelles, des risques pour les données confiées par leurs clients. Est-ce qu'il existe d'autres risques pour eux en termes de process industriel, d'accès à leurs données à leurs données d'entreprise ou données comptables, etc., qui pourraient avoir un impact pour eux?
Alors oui, effectivement, ça pourrait être tout simplement l'image de marque. Si un jour, il y a une grande entreprise qui se fait pirater dans un secteur qui serait très concurrentiel, que cette attaque est mise au goût du jour, sort directement dans tous les journaux, on pourrait se poser la question entre deux concurrents, entre un qui a subi une attaque de pirate... Peu importe, et une autre ben, qui semble être sécurisée, on pourrait peut-être tout naturellement se diriger vers l'entreprise qui n'a pas subi d'attaque.
Mais on a entendu régulièrement des faits divers sur des milliers d'adresses mail, de trucs qui fuitent sur des réseaux, qu'on retrouve sur des réseaux, on entend régulièrement parler hein, de ce type de faits divers. Est-ce que c'est pas étonnant que des très grosses sociétés qui possèdent des quantités de données astronomiques sur des milliers, voire des millions de personnes pour des sociétés comme Facebook, etc., qui ont des milliards d'utilisateurs, est-ce que c'est pas étonnant qu'on trouve encore des sociétés comme ça qui arrivent à se faire cyberattaquer et qui arrivent à avoir leurs données qui partent sur les réseaux alors que pourtant, eux, ils devraient avoir la ressource pour éviter ce genre de problème.
C'est vrai que la question est légitime, surtout quand il s'agit de grands groupes. Si on doit les comparer à des TPE ou des PME, le budget de la cybersécurité n'est pas du tout le même. Il y a aussi une autre problématique, c'est que plus l'entreprise est grande, plus son système d'information sera complexe. Et dans cette complexité, les attaquants peuvent trouver des vulnérabilités, d'une part. Et d'autre part, il y a peut-être plus d'enjeux pour les attaquants eux-mêmes à essayer de cibler ces grandes entreprises parce que le gain est là-bas et beaucoup plus grand qu'une PME.
Oui, puisqu'ils auront la possibilité de demander des rançons qui sont du coup beaucoup plus grosses à une société qui a des milliards d'utilisateurs qu'à une TPE, locale qui elle, bon, s'en rend embêté en soi, mais qui n'aura pas forcément la possibilité de répondre à une demande importante.
Exactement. Et puis, il y a aussi un autre risque qui est le risque de la menace interne. Dans un grand groupe, peut-être si on se met à la place d'un attaquant, pour pouvoir rentrer au sein du grand groupe, hein, je parle au sens cyber du terme, il est peut-être plus simple d'amadouer ou de donner quelque chose à quelqu'un qui serait déjà à l'intérieur, de lui demander de déposer une clé USB quelque part, de donner un accès à un réseau, d'aller cliquer sur une pièce jointe, contre de l'argent ou contre autre chose, pour justement pouvoir atteindre le réseau en question. Donc cette question de la menace interne est aussi beaucoup plus présente dans les grands groupes que dans les petites entreprises.
C'est quelque chose qui se gère aussi en amont, parce que c'est assez compliqué. Parce qu'autant on peut sécuriser du matériel informatique, comment on peut sécuriser des personnes en se disant on est certain que les personnes qui ont accès à telle ou telle donnée sensible, à tel ou tel matériel informatique, ne va pas brancher une clé USB qu'on lui demande de brancher ou ne va pas, comme vous disiez, cliquer sur une pièce jointe.
Effectivement, c'est vrai qu'en cybersécurité, on parle souvent des deux aspects. Il y a l'aspect technique, on va mettre des logiciels, on va mettre des outils qui vont permettre de sécuriser les réseaux, les données, faire du chiffrement, des choses un petit peu complexes. Mais après, il y a aussi l'aspect humain. Et l'aspect humain est même plus important, je pense, que l'aspect technique. Effectivement, il faut sensibiliser les personnes aux problématiques de cybersécurité. Parce que si on ne leur dit pas les bonnes pratiques, elles ne pourront pas les mettre en œuvre. Et c'est souvent, dans les entreprises, le premier filtre avant de pouvoir rentrer sur un réseau quand on se place au niveau d'un attaquant. C'est l'humain, en fait.
Alors là, on parlait des entreprises, et du coup, on parle d'humains, donc de personnes. On est aussi des particuliers. Les particuliers, on a des ordinateurs chez nous. On a énormément de données personnelles dedans, des données bancaires, des données personnelles, vie privée, etc. Est-ce qu'on est aussi concerné par ces problématiques de cybersécurité ?
Alors, totalement. Et malheureusement, encore une fois, mais... effectivement, par exemple, un exemple typique, ça serait je me connecte sur mon site préféré de vente en ligne de je ne sais quoi. Ce site s'est fait attaquer, sauf que moi je n'y suis pour rien et puis je fais simplement que me connecter. Un attaquant récupère mes identifiants de connexion. Il s'avère que mon identifiant c'est mon adresse email la plupart du temps. Il récupère mon mot de passe. Un attaquant est très bête, il va essayer de réutiliser cet identifiant sur d'autres sites internet avec le même mot de passe. Donc, effectivement, alors qu'à la base, on n'avait pas fait de faux pas au niveau sécurité, on s'est juste connecté sur notre site habituel. Et la vulnérabilité ici, c'est qu'on réutilise le même mot de passe et qu'on a le même identifiant sur la plupart des services sur lesquels on se connecte.
Donc en fait, pour les particuliers, le problème, il est surtout dans du bon sens, en fait. Le particulier peut déjà se prémunir de pas mal de problèmes, juste en appliquant quelques règles de base, notamment sur ses mots de passe.
Effectivement. C'est vrai qu'en appliquant des règles élémentaires, j'ai envie de dire, de sécurité, on peut prémunir la plupart des risques qui peuvent peser sur les particuliers.
Vous proposez des... je dis vous, bon curity, mais de manière générale, en termes de cybersécurité, il existe des solutions adaptées aux professionnels et aux particuliers, ou c'est des solutions simplifiées pour les professionnels qui sont appliquées aux particuliers, puisque c'est pas forcément le cœur de la clientèle ?
Je préfère séparer les deux. Séparer, on va dire, les solutions qui sont pour les particuliers et c'est les solutions qui sont destinées aux entreprises. Parce qu'effectivement, on ne sera pas sur le même type de réseau. Le réseau informatique que l'on a tous chez soi est assez basique, alors qu'il peut y avoir des réseaux d'entreprises très complexes. Donc je dirais que les deux offres sont séparées.
Donc du coup, on aura une offre pour les professionnels, une offre pour les particuliers avec des solutions différentes et avec une bonne partie de conseils, en fait, puisque vous nous expliquez que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, que soit l'humain au cœur des dispositifs pour les entreprises ou sur des conseils de bon sens pour les particuliers, on est votre métier, c'est des solutions techniques, mais c'est aussi du conseil.
Alors oui, effectivement. Alors c'est vrai qu'en cybersécurité, on va dire qu'il y a plusieurs domaines. Hein. Il va y avoir ceux qui vont éditer les solutions, ceux qui vont faire du conseil aux entreprises. Il y a aussi de la formation, ça c'est très important. Enfin, on parlait des règles élémentaires de sécurité, mais autant il faut bien former les personnes à ces règles élémentaires de sécurité, sans quoi elles ne pourront pas les appliquer. Et nous, par exemple, à Bunker IT, on est sur les deux branches, donc à la fois la création de solutions innovantes destinées aux entreprises, et à la fois on fait aussi du conseil, on fait aussi des audits de sécurité ou des tests d'intrusion où là le but est de se mettre dans la peau d'un attaquant. On se met vraiment comme si on était un attaquant pour pouvoir déceler la liste, enfin déceler les vulnérabilités éventuelles sur le système.
Mais vous allez nous présenter hein, ce que fait Bunker IT. Je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes avec Florian Pitance de Bunker IT pour la deuxième partie de votre quotidienne. C'est sur Radio Bulle et c'est après le top de la musique.